Merci d'être là. Aujourd'hui, donc, la troisième conférence dans le cadre de ce cycle sur comment raisonnent les économistes est donnée par Alain Kirman. Alain est professeur d'économie à l'Université d'Aix-Marseille et il est également directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, le HESS, à Marseille. C'est un spécialiste bien reconnu de l'analyse des équilibres, de l'analyse des marchés, de la formation des prix, de l'analyse de la coordination sur les marchés et également c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à l'évolution et au rôle de la coordination et des interactions sociales dans l'évolution des marchés, des institutions. Et donc aujourd'hui il va nous parler de la crise en théorie économique. Alors c'est un peu plus d'actualité bien sûr, mais il va le faire avec un point de vue de théoricien des jeux, hein, et donc je lui donne tout de suite la parole et merci beaucoup Alain d'avoir accepté cette invitation.
Merci beaucoup Marie-Claire. Est-ce que vous pouvez m'entendre? C'est un plaisir de vous parler de ces sujets et au départ, ça peut vous paraître un peu bizarre qu'un économiste parle de comment raisonnent les économistes, parce que pour beaucoup de gens, les économistes ne raisonnent pas. Et donc, je vais essayer d'abord de vous expliquer un petit peu le point de vue, disons, standard, presque caricatural de l'économiste, et puis après, de vous montrer que pour pas mal de problèmes, on a quand même réfléchi à toutes sortes d'autres solutions. Je ne dirais pas du tout que la profession dans sa globalité a suivi toutes ces démarches, mais je voulais vous montrer des côtés intéressants de l'approche de l'économiste au départ, des problèmes réels devant lesquels on se trouve, et puis essayer de vous expliquer quelques explications pour ces phénomènes. Et donc, quelqu'un a dit que l'économiste, c'est quelqu'un qui n'avait pas le charisme de devenir comptable. Et donc, ce qui n'est pas très flatteur pour les économistes. Mais on va commencer avec ce que j'appellerais le modèle économique de base, où vous avez des individus isolés, chacun dans son coin, qui essaie de résoudre son problème, il sait quelles sont ses contraintes, il sait quelles sont ses possibilités, et cherche simplement à prendre la meilleure possibilité disponible pour lui. Les gens sont isolés, les contraintes sont données par les marchés, et chacun fait sa décision d'une façon isolée, sans tenir compte ni des actions des autres, ni de l'impact de ses actions à lui sur les autres. Et surtout, il n'y a pas de communication directe entre les individus dans ce modèle, disons, caricatural. Et l'idée de base, c'est que les marchés vont s'auto-organiser de telle façon qu'il y a un équilibre, c'est-à-dire où les choix des individus sont compatibles entre eux. Et l'idée, c'est que de temps en temps, ce système est perturbé par des chocs de l'extérieur, mais essentiellement, ça va revenir à l'équilibre. Donc, tout mouvement dans l'économie est dû à quelque chose d'extérieur, et on est essentiellement en train de naviguer sur un fleuve qui va dans une direction qui est assez prévisible. Et ce qu'on observe quand on regarde la situation, selon la théorie économique, serait une genre de système, comme je vous ai dit, très bien équilibré, qui avance dans le temps, et de temps en temps, il y a des petites déviations, mais finalement, le chemin est bien défini. Et les marchés financiers et réels ajustent tout le temps pour réconcilier les demandes et les offres des individus dedans. Et donc ça, c'est, si vous voulez, les bases. Évidemment, il y a un peu plus que ça, parce que les gens ne prennent pas les décisions dans la certitude, ils ne savent pas exactement ce qui va arriver. Et donc, un problème essentiel pour nous, c'est l'incertitude. Les gens doivent quand même tenir compte de ce qui va se passer, ils ne savent pas avec certitude ce que l'avenir va avoir pour eux. Et donc, l'idée du modèle standard, c'est que les gens savent qu'il y a de l'incertitude, mais ils sont capables d'évaluer cette incertitude correctement. Ça veut dire que malgré le fait que je ne sais pas exactement ce qui va arriver, j'évalue correctement les probabilités des événements qui vont arriver. Donc chacun a ce qu'on appelle des anticipations rationnelles. Ça veut dire que tout le monde anticipe l'avenir de la même façon dans ce modèle. Et quand on a des gens face à des situations dans l'incertitude, évidemment, il y a des risques et l'idée, c'est que les marchés vont permettre aux gens de diversifier leurs actions devant ces risques et donc diversifier les risques et diminuer le risque pour les individus. Donc les marchés servent à essentiellement éliminer d'une certaine façon une grande partie des risques individuels. Là, tout ce que je dis là, c'est ce qu'on dit quand on décrit le modèle tout à fait standard de macroéconomie. Maintenant, quelle est la réalité? Et c'est ça qui est un peu gênant quand on commence comme ça, parce que la réalité qu'on voit aujourd'hui est très différente de ce que je viens de vous décrire. On a vu que nous sommes précipités à toute vitesse dans une crise, et cette crise n'était pas seulement financière, mais réelle. C'est-à-dire que le taux de chômage a énormément augmenté. Et la question, c'est comment est-ce que ça a pu arriver? Parce que dans le modèle, apparemment, les marchés ont équilibré les offres et les demandes. Et donc, comment se fait-il que tout d'un coup, on a eu ce changement très important? Et comment se fait-il que les économistes n'ont pas prévu ça? Même il y avait la reine en Angleterre qui a posé la question aux économistes, mais messieurs, pourquoi vous n'avez pas prévu la crise? Et donc il y avait tout un groupe d'économistes, sujets fidèles de Sa Majesté, qui ont écrit, essayant d'expliquer pourquoi les économistes n'ont pas prévu la crise. Mais ce qui est curieux, c'est que, en contradiction avec la théorie, on a vu que le monde, par exemple, financier, est devenu de jour en jour plus global. Donc les risques, en principe, étaient de plus en plus diversifiés. Et donc, ça devait avoir de moins en moins d'influence sur l'évolution de l'économie globale. Et en réalité, ce qu'on a vu, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire qu'on a vu que le monde est devenu très vulnérable, très fragile, et qu'on a eu un changement abrupt de phase, et on s'est trouvé dans une phase tout à fait différente. Et regardons pour un instant la crise et les explications données pour la crise, et vous allez voir que ces explications ne sont pas cohérentes avec le type de modèle que je vous ai expliqué. D'abord, quels sont, si on regarde de près le mécanisme de la crise, ce qui est arrivé, c'est que les banques, tout d'un coup, commençaient à se méfier des autres banques. Pourquoi? Parce qu'il y avait une crise de confiance. C'est-à-dire que chaque banque commençait à se demander, est-ce que les banques auxquelles je prête d'habitude sont en réalité capables de rembourser les prêts? Est-ce qu'ils sont fiables? Et donc, tout d'un coup, il y avait une crise de confiance dans le système bancaire, et ce système s'est grippé. Et ce qu'on a vu, c'est qu'on ne savait pas qui avait des mauvais risques. On a compris qu'il y avait des risques très importants qui circulaient, des instruments qui étaient douteux, toxiques, ça circulait, mais on ne savait pas qui détenait ces risques et en quelle quantité. Donc tout d'un coup, les banques commençaient à se méfier chacun des autres. Donc il y avait une question de confiance. Autre explication, c'est que quand ces risques s'avéraient vraiment mauvais, aucune banque ne savait qui étaient, comme je vous ai dit, les banques qui détenaient ces risques. Et donc, il y avait une genre de réticence générale à prêter de l'argent dans le système. Donc, il y avait ce qu'on appelle un manque de liquidité. Et ce qui est arrivé, c'est qu'on a un réseau de banques. Les banques sont liées les unes avec les autres. Et ce n'était pas seulement une confiance générale, c'était confiance dans les gens avec lesquels je suis lié dans le réseau. Donc, deuxième mot important, c'est le fait qu'il y avait un réseau les gens sont interconnectés, les banques, les individus, etc. Donc, ce qu'on a vu, c'est là, malheureusement, je suis désolé, mais cette citation de la Banque d'Angleterre est en anglais, mais je vous fais un petit résumé de Andy Haldane, qui est le responsable pour la stabilité financière à la Banque d'Angleterre. Et ce qu'il dit, c'est qu'il compare la crise financière avec l'épidémie de grippe H1N1, et on a été lui parler de la grippe avant. Mais ce qu'il dit, c'est que les deux choses sont des phénomènes similaires. C'est-à-dire que vous avez à la fois une interconnexion entre les gens financiers et non financiers. Les gens s'adaptent parce que les parties de ce réseau que j'utilise sont conditionnées par ma confiance dans les autres. Et puis, on peut avoir un genre de dégradation du système parce que quand une partie tombe en panne, ça impacte sur toutes les autres parties et on a un genre de phénomène contagion qui se diffuse rapidement dans le système. Donc, il dit les problèmes des réseaux électriques, des maladies et les crises financières sont tous de même type. Mais ça, c'est une vision très différente de la vision classique en économie. Donc, là, je vous ai utilisé deux mots, réseau et confiance. Et le troisième mot, ce que je viens de vous dire, c'est contagion. C'est-à-dire qu'il y a un impact de ce que chaque individu, chaque entreprise fait sur les autres. Quand une banque commence à être en difficulté, ça peut être transmis à d'autres banques. Et on voit ce phénomène de contagion. Mais ces mots ne correspondent pas aux éléments de la théorie que je vous ai exposée au départ. Et donc c'est ça qui est important. Je pense qu'il faut se poser deux questions. D'abord, comment se fait-il que les économistes n'ont pas prévu cette crise que je viens de décrire? Pourquoi nos modèles macroéconomiques nient l'existence ou même la possibilité d'un tel événement? Et ça, c'est plus grave. C'est-à-dire, ce n'est pas le fait qu'on n'a pas prévu en quel mois on allait avoir la crise, mais le fait qu'on ait des modèles où la crise ne pouvait pas arriver. Et donc ça, c'est quand même une critique beaucoup plus importante de l'économie. Et oui. Bien sûr. Non, non, mais il y avait Schiller, il y avait Rubini, il y avait un certain nombre de gens qui ont dit ouh, absolument, vous êtes tout à fait, vous avez tout à fait raison. Oui, et Bob Schiller, Nouriel Rubini, tout le monde a parlé de contagion, de phénomène de bulle, etc. Donc, c'est des phénomènes qui ne sont pas dans les modèles utilisés par les banques centrales, par le gouvernement américain, par exemple. Et donc, quand je dis nos modèles n'ont pas prévu, vous avez tout à fait raison, certains individus ont bien prévu, ils ne savaient pas, encore une fois, quand est-ce que ça allait se déclencher totalement, mais c'est clair qu'il y avait un certain nombre de gens qui ont dit la bulle, la bulle. Mais il y avait d'autres gens qui ont dit, mais il y a toujours des gens qui crient. Et même maintenant, après coup, on dit de Nouriel Roubini, ah, c'est quelqu'un qui a eu de la chance, parce qu'il a toujours crié qu'il y aura une crise, et un jour c'est arrivé, donc tout le monde, maintenant, tout d'un coup, il est un héros. Quel est le but de la théorie économique? Et là, je pense qu'on arrive à un problème pour toutes les économistes. Moi, je dirais que les économistes veulent expliquer les phénomènes économiques réels. Si vous présentez discours devant une audience de public d'économistes dans une très bonne université, ils vont vous dire, pas du tout, notre but c'est de publier dans les bonnes revues, c'est pas d'expliquer les phénomènes réels. Mais passons sur ça en silence, je dirais que l'économiste en général dirait, il veut analyser l'allocation efficace des ressources rares et construire des modèles pour expliquer quelles sont ces situations et comment est-ce qu'on peut y arriver. Mais comme je vous ai dit avant, typiquement ces modèles sont basés sur l'idée que les individus sont isolés et ultra-rationnels. Et Ça, c'est un aspect. On impose ces hypothèses sur nos individus. De l'autre côté, on a un autre problème, c'est qu'on suppose que l'économie totale, agrégée, fonctionne comme un individu. C'est-à-dire qu'on considère qu'on peut passer du niveau individu rationnel au niveau agrégé où le marché ou l'économie se comporte comme un individu. Il suffit de comprendre les motivations et les choix de l'individu typique pour comprendre le comportement de l'économie. Dans toute autre discipline, comme la physique, la sociologie, etc., on dirait, mais non, vous ne pouvez pas passer de l'individu, le particulier individuel, au comportement agrégé, vous ne pouvez pas passer de l'individu isolé pour décrire les phénomènes sociaux. Mais en économie, on a persisté avec cette idée qu'on pourrait avoir un individu représentatif et l'économie se comporte comme cet individu. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a dit, mais les seuls modèles scientifiques, c'est des modèles basés sur cette notion d'individu rationnel. Et on a continué à construire des modèles de plus en plus sophistiqués en macroéconomie, mais basés toujours sur cette notion que l'économie ressemble à un individu rationnel. Et comme Solow, un prix Nobel de l'économie, a dit, voyant le développement de ces modèles de plus en plus sophistiqués, il y a peut-être dans la nature humaine un plaisir profondément enraciné, pervers, qui est le plaisir d'adopter et de défendre une doctrine qui est totalement contre-intuitive, et le paysan mal informé qui regarde ça se demande sur quelle planète il vit. Et donc l'idée, c'est qu'on est en train de construire des modèles toujours basés sur cet individu typique, très rationnel, qui se détache de plus en plus de la réalité. Et pourquoi? Parce qu'on a insisté énormément sur le fait qu'on veut baser nos modèles, et ce n'est pas scientifique de les baser sur autre que des individus ultra-rationnels, dans le sens limité des économistes. Mais n'oublions pas que notre définition, la définition des économistes de la rationalité, c'est quelque chose qu'on a trouvé par l'introspection. Pas parce qu'on est allé voir, regarder les individus et dire mais comment est-ce qu'ils se comportent, plutôt parce qu'on a réfléchi dans nos têtes à dire mais qu'est-ce que le type rationnel ferait dans ces circonstances, ou peut-être pire, de quoi est-ce que j'ai besoin pour pouvoir résoudre mon petit modèle, et donc qu'est-ce que je dois imposer sur mes individus. Et pire, comme je vous ai dit, on considère l'économie totale comme si c'était un individu comme ça. Et on a dit, mais ces modèles, si vous continuez comme ça et vous évitez ces hypothèses de base, vous n'avez plus un modèle scientifique. Donc la notion, c'était que le modèle qu'on a de l'individu ultra-rationnel, c'était la seule base possible pour un modèle scientifique de l'économie. Mais je vais d'abord vous donner un petit exemple, juste pour illustrer une notion, et peut-être ça vous allez comprendre une première notion, c'est qu'une des hypothèses importantes, c'est que les gens arrivent à résoudre leurs problèmes, souvent compliqués, de choix, dans des situations qui sont assez compliquées, et que, évidemment, on fait l'hypothèse que les gens sont capables de prêter leur attention totalement à ce problème et le résoudre. Ça veut dire que pour tous les problèmes que vous avez dans la vie quotidienne, vous êtes tout le temps totalement focalisé, en train de trouver la solution optimale pour chaque décision. Quel prêt vous allez prendre pour votre maison? Qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez quelque part pour le transport optimal, etc. Tout ça, vous êtes totalement concentré sur ça. Donc une hypothèse de base, c'est que on prête totalement attention à chaque problème et on le résout correctement. Dans cet exercice, vous allez voir que ce n'est peut-être pas toujours le cas que cette hypothèse est justifiée. C'est juste un petit exemple, mais ça peut au moins vous amuser. Et donc, ici, l'objectif, vous allez voir, il y a des gens qui jouent au basket. Et L'idée, c'est que pendant ce temps-là, vous devez regarder soigneusement, vous concentrer et compter le nombre de passes entre les individus habillés en blanc. D'accord ? Bon, ça, c'est tout ce que vous avez à faire. C'est un problème très simple. Vous regardez, vous vous concentrez, vous décidez combien de passes à la balle de basket il y avait entre les gens qui sont habillés en blanc. Et puis après, on va essayer de voir le résultat. Voilà. Je suis désolé, c'est un peu long. Cinq, neuf, douze, treize, onze, un, six, trois, quatre, onze, neuf, cinq, un, trois, huit, sept. Voilà, donc, question c'est combien de passes vous avez compté? Les gens qui ont compté, par exemple, 12, combien? 13? 14? 15? 16? D'accord. Donc, vous voyez.
On n'avait déjà pas vu qu'il y avait deux ballons.
Donc, ma deuxième question, c'est est-ce que quelqu'un a vu quelque chose de bizarre? Deux ballons? C'est tout? D'accord. Donc, vous étiez bien focalisé quand même. Donc, personne n'a vu quoi que ce soit qui était bizarre. Donc, on va maintenant revoir et on va continuer. Et vous allez voir. Donc, je vais le refaire. Ça prend un petit peu de temps. Mais... Et après, on va voir ce qui... Essayez de recompter pour voir. Donc, on va continuer. Est-ce que vous avez vu le gorille? Non, voilà. Donc, oui, simplement. Cet petit exercice est de vous dire que de supposer que tout le monde est ultra-rationnel, se focalise sur tous les problèmes face à lui et est capable tout le temps de prêter attention à tout est déjà une hypothèse qui est un petit peu exagérée. Donc, là vous avez vu donc à cette notion de... C'était juste pour illustrer le fait que quelquefois nos hypothèses sur les individus comme extrêmement rationnels, c'est un peu exagéré. Donc, mais est-ce que ça veut dire que finalement les économistes sont restés, dans un certain sens, dans une boîte détachée de la réalité? Et l'idée, ce que je vais vous présenter ici, c'est quelques éléments d'une idée, une vision peut-être un peu plus réaliste de l'économie, mais que beaucoup d'économistes, évidemment, en considérer au moins en partie. Et donc, l'idée, c'est de dire qu'il ne faut pas regarder que les individus. Comme dans le système bancaire, il ne faut pas regarder les banques une par une, mais il faut regarder le système entier. C'est un système, comme dans beaucoup de disciplines, et le système est interdépendant, et il faut penser tout le temps à l'interaction entre les individus, à l'impact sur le système, et le fait que les individus sont liés aux autres. Et donc, ce que je dirais, c'est qu'au lieu de considérer l'efficacité, qui est toujours le thème des économistes, ce serait mieux de se focaliser sur le problème de coordination. C'est le problème essentiel de notre discipline, c'est d'expliquer comment les gens arrivent à se coordonner sur certaines activité, comment on arrive avec tous les intérêts divers des gens qui sont isolés, pas isolés totalement de chacun de l'autre, mais chacun à ses voisins réagit aux choses locales, mais pas nécessairement à tout le système. Donc, on a ce système interactif et c'est ce qui est intéressant de savoir comment est-ce que ce système coordonne, est-ce que ça le fait d'une façon satisfaisante ou de temps en temps, est-ce que cette coordination est en difficulté. Donc, plutôt que de se focaliser tout le temps sur l'efficacité, le mot-clé pour beaucoup d'économistes, je pense qu'il faut passer un peu plus de temps à réfléchir sur la coordination. Donc, efficacité, pourquoi je dis que les économistes sont tellement orientés vers l'efficacité? Vous avez sans doute entendu tout le temps. Ça, c'est une activité qui n'est pas très bonne parce que ce n'est pas efficace. Je vous raconte une petite histoire pour montrer l'attitude de l'économiste et comment c'est différent des autres individus. Parce que surtout, ce cycle de conférences est sur comment raisonnent les économistes. Il y avait trois personnes qui jouaient au golf. Il y avait un prêtre, un psychiatre et un économiste. Alors les trois jouaient. Et le type devant jouait très très lentement. Et il avait un caddie pour l'aider, mais quand même il jouait extrêmement lentement. Les trois en question commençaient à râler parce que c'était quand même dimanche après-midi, gaspillé, parce que ce type jouait tellement lentement. Il râlait, il disait, mais quand même, dépêchez-vous un peu, etc. Mais le type continuait à jouer très lentement. Finalement, ils ont désigné le prêtre pour aller voir ce qui se passait devant. Donc le prêtre revient totalement catastrophé, il dit, mais vous savez pourquoi il joue si lentement? C'est parce qu'il est aveugle. Je suis vraiment catastrophé, c'est terrible. Tous les dimanches, je passe mon temps à expliquer aux gens comment être gentil avec les autres. Et là, j'y hurle. Et ce pauvre type, il est quand même aveugle. Il se retourne vers le psychiatre, il dit, mais Fred, qu'est-ce que tu en penses? Et Fred dit, moi aussi, j'ai tout le temps des gens devant moi. Ils expliquent leurs problèmes, moi j'explique comment vivre avec leurs problèmes. Et là, je suis en train de hurler comme un fou à ce pauvre type qui est aveugle. Puis il se retourne vers l'économiste, il dit, mais Joe, qu'est-ce que tu en penses? Et Joe dit, moi je considère cette situation totalement inefficace. Ce type-là, il devait jouer la nuit. Et donc, vous voyez, l'attitude est quand même très différente des économistes des autres. Et donc, ce que je vous dis, c'est que je pense que ce qu'il faut réfléchir à un système où on s'intéresse au fait que les agents interagissent les uns avec les autres, mais plutôt que d'être les gens iterationnels, souvent ils ont des règles de comportement relativement simples, et l'interaction entre les individus a pour effet de rendre le comportement de l'agrégé très différente du comportement des individus mêmes. Et ça, c'est important de faire cette distinction. Parce que si on regarde le comportement collectif, on voit très bien que le comportement des foules est très différent du comportement d'un individu typique, isolé. Il est influencé par les gens autour de lui. Ça ne suffit pas de prendre un individu et demander pourquoi il a décidé de faire la révolution de l'individu typique. Par exemple, une explication d'un historien qui a suivi les arguments de Elster, le spécialiste de la rationalité, pour expliquer les révolutions, il a dit, mais chacun est chez lui en train de résoudre son problème complexe, intertemporel, et une fois qu'il a trouvé la solution, il trouve que la solution, c'est de se mettre dans la rue et de créer une révolution. Étant donné que tout le monde était en train de résoudre le même problème, tout le monde se trouve dans la rue et c'est comme ça que les révolutions commencent. Mais la plupart d'entre nous ne considèrent pas du tout que c'est comme ça que les révolutions commencent. C'est parce que les gens voient les autres, commencent à penser que peut-être s'il y a assez d'entre nous, ça va marcher, etc., etc. Donc c'est l'interaction, l'imitation, la vision de ce que font les autres qui est importante. Et une fois qu'on accepte la notion que l'interaction entre les individus rend l'action collective différente de l'action individuelle, on peut expliquer toutes sortes de phénomènes qui sont difficilement explicables dans le modèle tout à fait standard. Encore une fois, j'insiste sur le fait que ce que je suis en train de vous dire est quand même cumul de beaucoup d'investigations, de beaucoup d'économistes. C'est-à-dire que ce n'est pas que la profession Bloch a rejeté tous ces arguments. C'est plutôt qu'on a commencé à réfléchir à d'autres explications que dans le modèle vraiment de base standard pour ces phénomènes. Mais on peut commencer à expliquer les bulles, les cracks, les effets de mode, la transmission de l'information et même les échanges, qui échange avec qui. Tous ces phénomènes, une fois que vous voyez le système comme un système interactif, vous pouvez commencer à expliquer. L'idée de décrire les marchés comme des individus, chacun en train de résoudre d'une façon isolée son problème de maximisation intertemporelle, est une vision qui est très loin de la réalité. Parce que pensez à un marché financier. Là, qu'est-ce que vous avez? Tous ces individus, très froids, en train de faire leurs calculs quant à leur meilleur investissement, etc. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'interaction entre les individus. Vous voyez, je vous donne un exemple. Voilà, vous voyez ces gens froids, très calculatifs, qui ne sont pas du tout influencés par ce qui se passe autour. Donc ça, c'est, vous voyez, l'exemple classique des gens dans le marché. Mais évidemment, vous voyez exactement ce qui se passe. On a eu un certain nombre d'investigations sur le comportement de ces individus-là. Il y a une investigation très intéressante de quelqu'un à l'université de Cambridge qui a regardé les traders pendant leur activité, a mesuré leur activité au niveau neurologique et aussi au niveau transpiration, battement de cœur, etc. Et même les hormones. Et il a vu que pendant les périodes de volatilité, les périodes où l'action est très rapide, réactions deviennent de plus en plus émotionnelles, ils génèrent de plus en plus de testostérone, et ceux qui sont en plus de succès ont tendance à générer plus de testostérone que les autres. Donc, ce n'est pas vrai que ce sont des gens d'agents mécaniques qui calculent tout simplement. Les émotions sont très importantes. Et évidemment, ce qui est très intéressant d'étudier exactement pourquoi. Quand ils ont publié leur article, Coates m'a expliqué que certains nombres de traders, entendant que ceux qui avaient plus de succès généraient plus de testostérone, sont allés voir leur médecin demandant s'ils pouvaient avoir des injections de testostérone. Mais ça a certaines conséquences additionnelles qui ne sont pas très désirables. Donc, j'espère que ce phénomène est passé. Mais ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est qu'il faut peut-être essayer de regarder les individus, pas comme les individus qui calculent d'une façon isolée, mais plutôt que des gens qui sont dans un système et ensemble ils arrivent à des choses assez sophistiquées, mais chacun n'a pas un raisonnement énormément sophistiqué. Je dirais qu'on est peut-être un peu plus... ça c'est triste. Bon, voilà, ils sont là. On est peut-être un peu plus comme ces gens-là que comme des êtres ultra-rationnels. Je pense qu'on est quelque part entre les deux. Mais les fourmis arrivent, malgré le fait qu'ils ont une connaissance très locale, à une organisation et une activité assez compliquée, assez sophistiquée. Donc, quelles sont les bases donc, de cette autre vision? Je dirais que ce qu'on appelle les effets externes, l'impact de l'activité d'un sur l'autre, devient central dans cette vision. Le réseau qui lie les agents devient important et l'intelligence qu'on attribue aux agents est moins importante à cause des règles simples que les gens utilisent et ces règles simples que les gens utilisent émergent dans le temps. Donc ça, c'est une vision très différente du type qui a une vision parfaite de l'économie et qui est capable de faire tous les calculs nécessaires. Donc, quelle est la structure qui gouverne ces interactions? Dans le modèle standard, il n'y a pas d'interaction directe entre les individus, ce n'est qu'à travers le marché. Mais quand on voit l'économie comme un système complexe, il y a beaucoup d'interactions directes entre les individus. Les individus communiquent les uns avec les autres. Et comme je vous ai dit, la rationalité employée n'est pas la rationalité nécessairement de nos axiomes de base de rationalité des économistes. Et souvent, ce qui arrive, c'est plutôt dû à l'interaction des individus que due à la rationalité propre. Il y a un petit exemple de deux individus, Code et Sander, qui ont fait une expérience dans le laboratoire pour essayer de deviner si la théorie économique expliquait ce qui se passe. Et il y a une série d'expériences assez connues où les gens participent à ce qu'on appelle une vente aux enchères, un double auction. Et là, l'idée, c'est que chacun, la moitié des participants ont un objet à vendre. Ils savent très bien combien ils ont payé pour ça. Les autres veulent acheter un objet et savent pour combien ils peuvent vendre l'objet à l'extérieur. Donc l'idée, c'est que ceux qui veulent acheter annoncent un prix, ceux qui veulent vendre annoncent un prix. S'il y a quelqu'un qui est prêt à acheter un prix qui est proposé par quelqu'un d'autre, on met les deux ensemble, la transaction est faite et on les élimine. Et finalement, à la fin, toutes les transactions sont faites et on voit quel est le prix à la fin. On trouve que, mystérieusement, le prix à la fin, c'est le prix, ce qu'on appelle le prix concurrentiel. C'est-à-dire que si j'avais fait un dessin de tous les prix que les gens étaient prêts à offrir et tous les prix auxquels les gens étaient prêts à vendre, c'était juste au point où les deux se croisent, donc l'équilibre. Mais il y a deux choses à noter là. D'abord, les transactions ne sont pas faites à ce prix-là. La plupart sont faites à des prix différents avant. Et le fait que ça arrive à ça, est-ce que c'est dû au fait que les gens calculaient bien, etc.? Et Gode et Sandler ont fait une expérience où ils ont dit, mais on va donner les mêmes billets aux gens, mais chacun va tirer au hasard entre le plus bas que quelqu'un est prêt à proposer, le prix le plus haut. On va tirer simplement au hasard. Et c'est ça qu'on va annoncer. Donc ces gens sont zéro intelligence. Ils annoncent un prix au hasard. Et exactement le même phénomène se reproduit. C'est-à-dire qu'on arrive à la fin au prix concurrentiel. C'est-à-dire que les gens qui n'ont aucune intelligence arrivent à la même conclusion que les gens qui étaient là en train de penser à combien ils devaient proposer, etc. L'explication donnée, c'est que c'est la structure de l'organisation de ce marché qui détermine essentiellement le résultat plutôt que le raisonnement des individus. Donc c'est le fait qu'ils sont dans ce système, qu'ils raisonnent à l'intérieur du système avec les règles du système, qui donne le résultat. Ce n'est pas dû à leur calcul très sophistiqué. Et donc, voilà, c'est ça que je viens de vous dire. Et donc, la première chose que je vous ai dit, c'est qu'il faut donc considérer l'économie avec des individus qui ne raisonnent pas nécessairement d'une façon très sophistiquée, mais ils apprennent, ils utilisent des règles. Et il faut aussi considérer les effets des réseaux. Et les réseaux de communication sont en réalité très importants. Et on ne peut pas imaginer un genre de marché global sans penser aux réseaux d'interaction à l'intérieur. Là, je vais vous donner un exemple très rapide qui est donné par le marché financier international. Et je voulais juste vous illustrer ça. Là, vous avez des pays différents et les nœuds, sont donnés par la taille des nœuds et donnés par la quantité d'actifs de l'étranger que les pays détiennent. Et les liens sont épais quand deux pays détiennent beaucoup des actifs de l'autre. Donc si vous avez deux pays qui ont un lien épais comme l'Angleterre et la France, ça veut dire que la France et l'Angleterre détiennent mutuellement des bons de l'autre. Et ce réseau, dans le temps, est devenu de plus en plus connexe. Donc on a dit, on a tous expliqué que ce réseau-là est devenu donc de plus en plus robuste parce que les pays sont de plus en plus connectés, donc les actifs sont de plus en plus diversifiés. Mais vous voyez aussi que les nœuds commencent à s'agrandir là. Ça, c'est 10 ans plus tard, et ça, c'est en 1995. Et vous voyez que déjà, un certain nombre de pays commencent à être très grands dans ce réseau et les liens plus épais. Et là, en 2005, vous voyez ce qui est arrivé. Vous avez des pays qui sont devenus absolument énormes maintenant et des liens entre ces pays-là sont extrêmement épais. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Ce réseau, en principe, selon la théorie de base d'économie, est devenu de plus en plus robuste, parce que c'est de plus en plus connexe. Mais comme vous voyez, en réalité, comme expliquent les gens de la Banque d'Angleterre, ce réseau est devenu de plus en plus fragile, en réalité, avec des nœuds très concentrés, avec des liens entre ces nœuds. Donc un choc dans un pays qui est un de ces grands nœuds peut produire des conséquences pour tout le réseau. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Donc tout ce que je voulais vous dire par ça, c'est que quand on regarde l'économie, il faut regarder les réseaux d'interaction dans cette économie et tenir compte de toutes sortes d'aspects de ces réseaux. Il ne suffit pas de dire, ah mais le réseau devient de plus en plus grand, comme l'Internet. Est-ce que maintenant que tout le monde peut acheter partout, donc le marché va devenir de plus en plus parfait? Et ce qu'on sait, en réalité, c'est que, curieusement, malgré le fait que vous avez la possibilité, des milliers de possibilités pour acheter certaines choses, les gens s'habituent très rapidement à utiliser très peu de sites. C'est-à-dire que si vous achetez des bouquins, les gens qui achètent des bouquins chez Amazon rarement regardent d'autres sites. Donc, malgré le fait qu'on a toutes ces possibilités, il y a plus dans le réseau que ça. Il y a les liens qui lient des choses régulièrement, qui sont utilisées régulièrement. La structure du réseau, si vous regardez comme c'est utilisé, est très différente des possibilités en principe. Donc, tout ça, c'était un petit peu une parenthèse. Mais je voulais passer maintenant à un autre exemple du raisonnement des économistes et vous expliquer un petit peu ce qui est utilisé par les marchés financiers et les critiques et puis aussi certains nombres de pensées sur cette façon de raisonner. On appelle ce qu'on appelle c'est les marchés efficaces, c'est une notion que si il y a de l'information disponible dans l'économie, cette information est transmise parfaitement par les prix des actifs. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'aller chercher de l'information sur l'entreprise, etc., parce que l'action de cette entreprise transmet, le prix de l'action de cette entreprise transmet toute l'information pertinente sur cette entreprise. Et là, le fait que le marché a cet impact est à la base de la recommandation classique de ne pas interférer avec les marchés. Les marchés s'organisent tels que sont totalement transparents, toute l'information est transmise vers le public. Et les marchés s'auto-organisent, et l'idée sous-entendue, c'est que s'auto-organisent d'une façon efficace. Et en réalité, comme je vous ai dit, dans l'analyse standard, toute l'information est transmis par le marché, les agents ne regardent que les prix du marché, sont indépendants, ils agissent d'une façon indépendante, et donc on peut se dire, mais comment est-ce que l'information est transmise dans les prix, si les gens sont totalement indépendants? L'idée, c'est que quand vous avez de l'information, vous allez agir. Quand vous agissez, les gens vont vous voir agir, donc ils vont conclure que vous avez de l'information et il y aura un impact. Vous achetez quelque chose, le prix augmente un peu. Les gens disent, ah, le prix augmente un peu. Pourquoi? Parce que l'information que ce type qui vient d'acheter est maintenant continue dans un certain sens dans le prix. Vous voyez l'idée? Donc, chaque fois que j'ai un ami qui me dit, ah, mais chez Apple, quelqu'un est en train de préparer un truc merveilleux, l'iPad, je dis, ah, mais quand même, avec cette information-là, je vais acheter les actions Apple. Mais si j'achète les actions Apple, tout le monde voit ça parce que le prix d'Apple augmente. Et donc, c'est très simple, l'idée. Et c'est pour ça que, quand vous voyez, toute l'information est disponible pour tout le monde. Donc, si un économiste voit un billet de 10 euros par terre, il ne va jamais le ramasser. Parce que si c'est un billet réel, tel quelqu'un d'autre l'aurait déjà ramassé. Donc, il ne faut pas prendre ça. Ça doit être...
C'est un écossais.
Ah! Oui, ou un hollandais. Et donc, quel est le problème avec ça? L'idée, encore une fois, je vous dis, c'est que chacun reçoit de l'information, il agit sur cette information, et puis cette information est transmise aux autres. Mais déjà, cette théorie qui était attribuée à Bachelier, dans l'année 1900, était critiquée par Henri Poincaré, grand mathématicien fin 19e, début 20e siècle. Et Henri Poincaré, il a dit, mais attendez, cette théorie est très bien, mais en réalité, les gens n'agissent pas indépendamment chacun des autres. Les gens, comme il dit, il y a une chose qu'elles ne peuvent détruire, ce sont leurs habitudes de moutons de panurge. Et c'est cela qui conserve. Et donc, ce que Henri Poincaré est en train de dire, mais vous ne pouvez pas prendre tout ça au sérieux parce que les gens ont tendance à suivre les autres, même aveuglement. Si on voit quelqu'un qui fait quelque chose, on a tendance à suivre. Et donc, à la fin, cette hypothèse-là de marché efficace, qui était la base de toute la théorie moderne de la finance, on dit le pauvre Bachelier, il n'a jamais vu le succès de sa théorie. Mais il a aussi, il est mort longtemps avant qu'Alan Greenspan, le chairman de Federal Reserve aux États-Unis, il a dit en 2008, « The whole intellectual edifice collapsed in the summer of last year. » Donc, Alan Greenspan a dit qu'essentiellement, les marchés efficaces étaient de mauvaises hypothèses et que, malheureusement, tout le système théorique associé avec s'est effondré. Mais donc, comment est-ce qu'on explique en réalité ce qui arrive dans le marché? Ce n'est pas que les gens sont stupides et qu'on agisse d'une façon non rationnelle. Mais je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on appelle les cascades informationnelles. Et là, les gens ne sont pas stupides, sont tout à fait rationnels, mais vous allez voir les conséquences. Peut-être vous avez entendu parler du fait qu'à un moment donné, les étudiants ont fait une expérience à Times Square. 20 étudiants se sont mis au milieu de Times Square, ils ont regardé le ciel comme ça. Après 4 ou 5 minutes, il y avait 1000 personnes qui regardaient le ciel comme ça. Parce que si les premiers regardaient le ciel, ils devaient avoir de l'information, quelque chose à voir là-haut. Donc, ils ne regardent pas le ciel parce qu'ils sont stupides. Donc, il y avait énormément de gens qui inféraient des actions des autres qu'il y avait quelque chose à voir. Et c'est ça qui est essentiellement le problème avec le marché efficace. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous imaginez deux restaurants. Et tous les gens ont des signaux concernant ces restaurants, A et B. Ils ont deux signaux. C'est un signal public, le guide Michelin d'il y a 5 ans, donc pas très très fiable maintenant, un signal quand même public, et des informations de leurs copains qui sont allés au restaurant récemment, qui est beaucoup plus fiable. Donc là, c'est 80% fiable. Et donc maintenant, supposons, comme on peut se permettre de dire en France, que le restaurant A est objectivement meilleur. Dans d'autres pays, on pense que ce n'est pas tout à fait objectif, mais supposons que par hasard, le guide Michelin se trompe et annonce que B est meilleur, mais 90% des signaux privés disent, comme vous pouvez imaginer, que A est meilleur. Donc, si tout le monde mettait leurs signaux comme ça, publiquement, tout le monde irait directement, on oublie les problèmes de congestion, dans le restaurant A. Mais le problème, c'est qu'en réalité, tout le monde peut se trouver parfaitement rationnellement dans le mauvais restaurant. Comment est-ce que ça peut arriver? Imaginons qu'un des individus qui a tiré le signal B, par hasard, un des 10 parmi les 100 clients en question, il a le signal privé, B est meilleur. Il a le signal public de Michelin, B est meilleur. Donc il dit, aucun problème, je vais en B. Deuxième type arrive, lui a le bon signal, A est meilleur. Et il regarde ça, il dit, ben, je vais aller en restaurant A. Et puis il regarde, oups, mais il y a quelqu'un déjà en restaurant B. Qu'est-ce qu'il fait là? Seule possibilité, c'est que lui a reçu le signal privé que B est meilleur. Mais son signal privé est aussi bon que mon signal privé. Ah, il faut que je regarde le signal public. Michelin, ah, B est meilleur. Donc, je vais en B. Maintenant, il y a deux personnes en B. La troisième personne qui arrive, bon signal, A est meilleur. Il dit, ben, je vais aller en A. Il y a deux personnes déjà assises en B. Donc, eux, ils ont dû avoir des signaux qui sont cohérents avec ça. Donc, leurs signaux privés sont aussi bons que les miens. Donc, j'y vais en B. Alors, tout le monde, parfaitement rationnellement, raisonnant d'une façon sophistiquée, se trouve en restaurant B, dans le mauvais restaurant. Et on peut faire le même exemple, évidemment, pour les marchés financiers. C'est-à-dire qu'un signal privé est transmis aux autres parce que quelqu'un agit sur la base de ce signal. Et vous voyez, la chose importante là, c'est contraire aux hypothèses des marchés efficaces. Après le deuxième personne, personne utilise et agit sur la base de son information privée. Ils jettent cette information privée parce qu'ils ont à faire quelque chose des autres. Donc, 90% de l'information est jetée, ne paraît jamais dans les prix ou dans le signal. Et donc, l'idée, c'est qu'un morceau d'information qui est mauvaise peut être transmis et peut créer un genre de bulle qui n'est pas basée sur une information réelle. Voilà une petite illustration de ça. Donc, vous voyez que ce type ici dit « I've got a stock here that could really excel. » Really excel. Excel, sell, sell, sell. Et donc, tout le monde commence. Et puis, ici, un pauvre type qui dit « This is madness. I can't take this anymore. Goodbye. » Il dit « Goodbye. Bye. Bye. » Et vous voyez, donc, tout le monde dit « Bye, bye, bye. » Donc, cette information-là est déformée. Et puis, en bas, enfin, vous avez un type qui dit « I've got a stock here. » Et donc, tout le, la chose va recommencer. Alors, l'idée, c'est évidemment juste une caricature, mais c'est assez sympa parce que ça montre qu'un petit morceau d'information peut être transmis sur le marché, peut engendrer un grand mouvement. Donc, ce que je vous ai dit, c'est l'interaction directe entre les individus qui engendre ce genre de mouvement. Et n'oublions pas que les gens font de l'interaction directe tout le temps. Ils échangent de l'information. Ils ont une influence sur le comportement des autres et ils modifient les anticipations parce qu'ils rencontrent d'autres gens qui ont d'autres anticipations. Souvent, les gens ont tendance à imiter un comportement de quelqu'un qui a un certain succès. Et puis, il y a des échanges. Qui échange avec qui? Tout ça, c'est des actions directes entre les individus. Mais les individus ne sont pas identiques. Et donc, ça, c'est un autre phénomène qui est très important. Et, entre parenthèses, je pense que je vous ai dit là qu'on peut expliquer toute une série de phénomènes qui sont quand même importants à analyser parce qu'ils ont un impact réel sur l'économie. Mais, encore une fois, ce n'est pas dû au fait que les gens sont irrationnels. C'est-à-dire que les gens, dans l'histoire de restaurants que je vous ai raconté, ne sont pas irrationnels. Ils raisonnent, mais malheureusement, ils arrivent collectivement à une mauvaise décision. Mais cette notion qu'il y a, parce qu'il y a interaction entre les individus, parce que j'ai quelque chose qui arrive au niveau individuel, que ça peut devenir un phénomène, engendrer un phénomène collectif qui est différent de phénomène individuel, et partout, même dans la nature. Je vais vous donner un exemple très simple. C'est ce qu'on appelle la division de travail, quelque chose que Adam Smith a discuté. Adam Smith est beaucoup plus connu pour la notion de marché libre, mais quand même importante, c'était aussi la notion que quand vous avez des gens différents, c'est intéressant d'avoir une division de travail, et même quand les gens sont les mêmes, c'est mieux d'avoir les gens qui font des tâches. Par exemple, on peut donner des tâches différentes aux gens. Collectivement, on arrive à un meilleur résultat que si chacun essaie de faire toutes les tâches lui-même. Et je vais vous donner un exemple très simple. Ces gens-là sont des abeilles. Et les abeilles ont besoin de garder la ruche à une température constante. Et la façon de faire ça, c'est de battre les ailes. On étire un peu d'eau devant la ruche et en battant les ailes, on fait évaporer l'eau, donc ça change la température de la ruche. Quand la température augmente, il faut plus d'air qui traverse la ruche. Comment est-ce que les abeilles arrivent à ça? Un macroéconomiste regardant ça regarderait l'abeille représentative et évidemment, quand la température augmente, il doit battre ses ailes de plus en plus rapidement. Donc, ça veut dire que si vous vous mettez à côté de la ruche, vous allez entendre que quand de la température augmente, le battement des ailes augmente. Donc, au lieu de faire zzzz tout le temps, ça va faire zzzz. Mais si vous avez fait cette expérience, vous allez voir qu'en réalité, ça continue zzzz. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le cas que tout le monde batte les ailes plus rapidement. C'est simplement que chaque abeille a un seuil de température. Quand la température arrive à ça, il est on ou off. Donc, dès que la température arrive à un certain seuil, il commence à battre ses ailes, mais toujours à la même vitesse. Donc, tous les abeilles battent à la même vitesse, mais chaque abeille a un seuil de température différent. Donc, individuellement, ils sont extrêmement simples. Ils sont on, off. Mais collectivement, ils arrivent à une réaction continue, très adaptée à l'environnement autour d'eux. Donc, curieusement, au lieu d'avoir un abeille qui est plus sophistiqué, qui bat ses ailes de plus en plus rapidement quand la température augmente, il est simplement on ou off. Et ensemble, ils arrivent à une réaction collective qui est quand même très sophistiquée. Encore une fois, des êtres simples, ensemble, ont un comportement qui est assez sophistiqué. Mais chaque individu est très simple. Et c'est la même idée qu'on a en économie.